nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour, merci de nous avoir rejoints sur Canal Académie. Je vous propose aujourd'hui de passer un moment avec un égyptologue de renom, Nicolas Grimal, membre depuis 2006 de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et professeur au Collège de France, où il tient la chaire Civilisation pharaonique, archéologie, philologie, histoire. Bonjour, monsieur Grimal.
Bonjour.
Nous avons de la chance de vous rencontrer à Paris, parce que j'ai l'impression que vous passez beaucoup de temps sur le terrain, c'est-à-dire dans les temples, à Karnak, dans la vallée du Nil, là où nous aimerions tous être, d'ailleurs.
Peut-être pas assez, mais c'est un petit peu la place d'un archéologue sur le terrain, oui.
Vous m'excuserez de ne pas pouvoir décliner toutes les étapes de votre carrière, mais on les trouve sur le site de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Et aujourd'hui, nous allons donc écouter l'égyptologue que vous êtes parler du Liban, et particulièrement de l'énigmatique port de Byblos. En effet, lors de la séance de votre Académie du 10 février 2012, vous avez en effet parrainé, je crois, on dit, une communication de Madame Martine Francis Alouche sur les nouvelles recherches à Byblos. Byblos et la mer, alors pourquoi un égyptologue s'intéresse-t-il à Byblos au lieu phénicien, comme on sait ?
Ce faisant, il ne fait que suivre les traces des Égyptiens eux-mêmes. Car Byblos est l'un des ports importants de la façade des échelles, dont on connaît la fréquentation depuis le troisième millénaire. Donc Byblos n'a pas attendu les égyptologues pour intéresser l'Égypte, mais a déjà intéressé les Égyptiens, car c'est par Byblos, en grande partie, que passait un commerce fort important à direction de l'Égypte, qui était un commerce de bois, les fameux cèdres du Liban, qui était descendu, on le pense aujourd'hui pour ce qui est Byblos, par la vallée du Fidar, puis ensuite qui était chargé vers l'Égypte, où il servait à la construction des édifices divins, à la construction des édifices royaux, mais pas seulement le cèdre. Venait aussi, si l'on en croit les annales du milieu du deuxième millénaire, des céréales qui descendaient depuis la Bekaa par Byblos, mais aussi du miel qui était extrêmement prisé, des herbes et tous les produits qui transitaient par cette ville qui était une plateforme de transmission économique très importante, comme le sera à un certain moment, de façon non concurrente, parce que située en Syrie du Nord, Ougarit, par exemple. On avait, sur ces villes côtières, au moins quatre grands ports, cinq probablement avec Beyrouth, dont on vient de découvrir le port antique. On avait Byblos, Ougarit, Tyr et Sidon, bien évidemment. Donc un égyptologue va normalement là où s'approvisionnaient les Égyptiens.
Est-ce pour autant que l'on peut dire que les Égyptiens avaient là un comptoir, ou c'était au contraire les Phéniciens qui faisaient du commerce vers l'Égypte ? C'est pas tout à fait la même configuration ?
Ah, pas du tout. Byblos est un cas un peu particulier dans la mesure où les princes de Byblos ont longtemps, essentiellement au deuxième millénaire, vécu à l'égyptienne, jusqu'à se faire enterrer à l'égyptienne. On peut voir au musée de Beyrouth, mais aussi au musée d'Istanbul, de magnifiques sarcophages qui proviennent des grandes nécropoles royales de Byblos, où on se rend compte que le pays, enfin du moins ses dirigeants, étaient peut-être plus encore égyptianisés que les princes d'Ougarit. C'est-à-dire qu'ils s'habillaient, ils vivaient, et en même temps, on a dans les cultes locaux, on parle du culte de Baal, on a des interactions avec les cultes égyptiens.
Alors, comment sont attestés sur le plan archéologique les liens entre la civilisation phénicienne et l'égyptienne ? C'est-à-dire, quelles sont les traces archéologiques qui nous prouvent tout ce que vous nous dites ?
Oui, alors d'abord, il faudrait peut-être nuancer les termes et réserver le terme de phénicien plutôt au premier millénaire avant notre ère.
D'accord.
Et considérer qu'au deuxième millénaire, voire à la fin du troisième millénaire, on est plutôt dans une civilisation qui représente une sorte de principauté qui ne se définit pas à l'époque comme phénicienne. Alors le paradoxe, effectivement, est que la documentation égyptienne est très abondante. On a beaucoup de sources documentaires, à commencer par les grandes annales royales, les annales de Toutmosis III, par exemple, qui décrivent, bien entendu, les campagnes militaires, mais les relations diplomatiques et politiques. On a, pour des périodes un peu postérieures, la deuxième moitié du deuxième millénaire, d'autres sources, les archives royales d'Akhnaton, par exemple, celles d'Amenophis III, et ainsi de suite, plus tout ce qu'ont livré les sites du Levant, qui ont livré une très abondante moisson de documents, soit directement égyptiens, soit de documents égyptisants, et surtout de textes et de sources historiques. Donc on a d'un côté une très grande masse de documentaires, et de l'autre côté, effectivement, des traces archéologiques, alors évidentes pour Byblos avec la nécropole, l'acropole, enfin l'autel, etc. Mais au milieu de toute cette abondance, on n'a jamais retrouvé le port antique.
Ah, c'est là le paradoxe, parce que vous avez dit qu'on y descendait des bois. Enfin, les bois, ça se charge sur d'énormes navires. Comment pouvait-il aborder un petit port? C'est quand même un petit port,
alors,
Byblos.
Vous posez la bonne question, qui est celle du schlitage et de la descente de ces billes de bois. Un de mes collègues libanais, Anis Chaya, y travaille et il prépare actuellement une synthèse sur cette question avec une collègue française. Ils se sont intéressés aux traces dans la vallée du Fidar, qui pouvait montrer, démontrer les lieux d'abattage, de stockage, de transit, etc. Tout cela est tout à fait complexe et nous permet, avec, je pense, un très bon pourcentage de possibilités, d'amener les billes de bois jusqu'à la mer. Mais une fois qu'elles sont à la mer,
oui,
encore faut-il les traîner jusqu'à un port. Alors, le port de Byblos actuel est un port médiéval, dont on sait qu'il est médiéval simplement parce qu'il utilise pour sa construction des éléments qui datent de la fin de l'époque hellénistique et romaine, qui ont été récupérés sur le site, et lui-même est construit sur l'emplacement d'une nécropole dont on a encore des tombes sous les maisons d'habitation du village. Et il se trouve qu'on est à peu près assuré, et ça a été le premier point du travail que nous avons fait, Martine Francis Alouche et moi-même, on est maintenant assuré que ce port est postérieur à la subsidence de la côte qui a dû se produire vers le 6e, 7e siècle de notre ère. Donc on a une coupure très très nette, et avant cette subsidence, ce port n'était pas un port. C'est un phénomène qui est bien connu à Tyr, à Sidon, à Beyrouth même, dans l'ensemble des ports libanais, qui a fait autrefois l'objet d'observations du père Poitbard dans les années 30, par exemple. Donc tout cela, ce sont des choses que l'on arrive à recouper assez facilement à travers les archives récentes. Alors ceci dit, ça n'apporte pas la solution. Il est difficile d'abord d'imaginer l'état de la côte avant la subsidence. Alors nous faisons des recherches qui prennent la suite de travaux comme ceux de Morange et d'autres en géomorphologie. Et puis, nous entreprenons toute une série de carottages sur la côte de façon à repérer dans cette côte extrêmement difficile les endroits où auraient pu, en fonction des abris que l'on peut supposer à l'époque, se trouver des installations qui auraient été, disons, des sortes de quais, d'entrepôts. Alors, pour ça, nous ne sommes pas tout à fait désarmés. Nous avons des parallèles, et en particulier en mer Rouge. Actuellement, mon collègue et ami Pierre Tallet, de la Sorbonne, Paris 4, est en train de fouiller un port en mer Rouge qui possède une jetée et des installations portuaires qui sont probablement comparables, car, nous disent les sources égyptiennes, ce sont là des techniques giblites, donc des techniques de Byblos. Paradoxe, les ports libanais sont connus par l'Égypte, qui est le seul endroit où ils se soient conservés en mer Rouge. Alors tout cela mis bout à bout, actuellement, nous avons comme hypothèse de travail ce qui paraît le plus logique et ce que corroborent des sources byzantines, probablement la baie sud de Byblos. Mais le problème est que sur cette baie sud, il y a des marinas, il y a toutes sortes d'installations qui ont été faites, et donc nous en sommes réduits à tenter des carottages.
Ça veut dire que les navires, peut-être mouillés au large, ne venaient pas sur le bord de la côte, finalement?
Enfin, alors ça, c'est une théorie qui
théorie.
C'est une théorie qui a été défendue par la très regrettée Honor Frost, dont nous avons pris la suite. Il existe en effet, au large de Byblos, un mouillage en eau profonde pour lequel nous avons encore à lever, c'est ce que nous ferons au cours de cette année, 6 ancres qui sont en eau profonde. Mais cela n'apporte pas de solution, car si vous prenez par exemple les reliefs de Khorsabad, qui sont les seuls reliefs connus, donc pour une époque beaucoup plus tardive que celle qui nous intéresse, montrant l'apport de ces billes de bois, il faut bien un endroit où l'on puisse prendre appui pour les charger, surtout à une époque où l'on ne connaît pas le levier.
Voilà, difficile, donc ça reste encore un mystère. Et pourtant, on est maintenant équipé, on peut faire des relevés topographiques, des fouilles sous-marines, je pense qu'il y en a certainement.
C'est ce que nous faisons. Plus d'un tiers de notre activité, puisque Madame Francis Alouche est elle-même archéologue sous-marin, si j'ose dire, une bonne partie, donc un tiers à peu près, consiste à d'abord à observer la côte en dessous, à relever géoradar de cette côte dans sa partie immergée, à lever ses ancres, et bien évidemment, s'il se trouvait que l'on rencontre des traces de rades différentes que celles que nous pensons, nous continuerons à faire des recherches dans le domaine sous-marin. Mais là encore, tout est à faire. L'archéologie sous-marine au Liban est en train d'être créée.
Vous avez beaucoup aussi procédé à des fouilles, je crois, à Alexandrie. Est-ce que vous établissez un parallèle de méthode de fouilles ou de, je ne sais pas, d'autres parallèles ?
Alors moi, je n'ai pas personnellement fouillé à Alexandrie, mais j'ai accompagné, je continue d'accompagner mon camarade et ami Jean-Yves Empereur, qui est le patron des fouilles d'Alexandrie. Il y a effectivement des points de rencontre, ne serait-ce que l'archéologie sous-marine, pour travailler sur des vestiges immergés, puisque le phénomène de subsidence à Alexandrie est très net. On a pratiquement 6 mètres de subsidence. Les palais de Cléopâtre, par exemple, sont sous l'eau, hein, sans parler de la ville d'Héraclion, etc. Le phare lui-même, une fois tombé, est sous l'eau actuellement. Donc il y a une méthodologie, effectivement, qui relève un peu du même domaine. Surtout, il y a des problématiques qui sont les problématiques d'accès à la terre dans des côtes qui ne sont pas très hospitalières. Il ne faut pas oublier que lorsqu'Alexandre a aménagé le port d'Alexandrie, le reste de la côte du Delta était pratiquement inabordable. Donc il faut ménager des abris. C'est aussi le cas de la côte libanaise, qui n'est pas facile, avec une mer qui est une mer très agitée, aux tempêtes méchantes. Donc il y a toute une connaissance, si vous voulez, toute une pratique qui relève effectivement des mêmes personnes.
Est-ce important pour l'archéologie de croiser les regards des différents spécialistes des lieux, de ces régions ? Enfin, vous vous rencontrez en colloque, comment ça se passe les échanges ?
Oui, d'abord je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas de recherche archéologique qui ne soit complétée par une recherche philologique, la céramologie, etc. Toutes ces disciplines doivent s'associer, c'est ce que nous faisons depuis de nombreuses années. Pour ce qui est du Liban tout particulièrement et de la Syrie, malheureusement, actuellement, la Syrie est dans une situation qui ne nous permet pas de travailler. D'ailleurs, j'ai à cette occasion une pensée pour nos collègues syriens qui sont dans la peine et la souffrance. Au Liban, il y a une tradition qui n'est pas très très ancienne, mais qui maintenant se solidifie bien, de rencontres internationales. Nous en avons d'ailleurs une encore à l'automne. Et se retrouvent dans ces rencontres, eh bien, disons, les spécialistes de la Méditerranée orientale, de Chypre jusqu'à la Syrie, la Turquie, en descendant jusqu'à l'Égypte. Et je dois dire que les égyptologues sont de plus en plus nombreux, en grande partie grâce aux travaux de mon collègue et confrère, puisqu'il est associé étranger de notre compagnie, Manfred Bitak, qui fouille la capitale de Ramsès II, à Tel el-Daba, et qui, bien entendu, a ouvert ainsi à l'Égypte une porte extraordinaire sur tout le Proche-Orient.
Merci Nicolas Grimal. J'espère que nous aurons d'autres opportunités de vous inviter à nous faire rêver de cette belle discipline qu'est l'archéologie. Les autres sont belles aussi, bien sûr. Et de vous inviter à parler de l'Égypte un peu plus profondément, car vous avez fait beaucoup de recherches. Merci infiniment.
C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir.
Merci, monsieur.